CFLX 95,5. La radio communautaire de l'Estrie.
Le patron te raconte que t'es adroit et gentil. Sois sûr que t'es le nigaud qui fait marcher son bateau. Attends-moi, petit gars.
Bienvenue à la complainte du travail.
De l'un, c'est de voir l'autre se casser le cou. L'argent est au bas de l'échelle et le talent part en haut. C'est pourquoi personne en haut, pourtant la vue est plus belle. Attends-moi, petit gars, tu vas tomber si je suis pas là. Le plaisir de l'un, c'est de voir l'autre se casser le cou.
Bonjour tout le monde, bienvenue à La Complainte du Travail, une émission qui vous est présentée par Illusion Emploi, qui est un organisme de défense des droits des travailleurs et travailleuses non syndiqués. Aujourd'hui, je suis Maxime et je vais être votre animateur et nous avons une invitée, Manon Brunel, qui est coordonnatrice d'Illusion Emploi. Bonjour Manon.
Bonjour.
Donc, le sujet de notre émission d'aujourd'hui sera les revendications d'Illusion Emploi. Pourquoi les revendications? Parce que nous sommes en campagne électorale, c'est plus une surprise pour personne, depuis le 4 novembre jusqu'au 8 décembre, qui va être la journée de vote. Alors, je vous rappelle l'importance de voter et d'exercer votre droit de citoyen ou citoyenne, parce que par ce simple geste-là, on exprime notre opinion au sujet des décisions qui vont influencer nos vies. Si vous avez des questions là, au sujet de où vous devez voter, comment voter par anticipation, ou bien si vous êtes inscrit sur les listes électorales, vous pouvez contacter le directeur général des élections. En période électorale, les organismes de défense des droits, comme Illusion Emploi, demandent des engagements aux candidats et candidates des différents partis, des engagements basés sur sur nos valeurs, en fait. Les valeurs d'Illusion Emploi sont l'égalité de traitement et l'inclusion. Alors, notre première revendication concerne la hausse du salaire minimum. On va profiter d'avoir Manon ce matin avec nous. Manon, est-ce qu'il existe des lois, des rapports ou quelque chose comme ça pour appuyer l'augmentation, finalement, notre revendication au sujet du salaire minimum?
Bien, en fait, première chose qu'on doit préciser, c'est que le salaire minimum, c'est inclus dans la loi sur les normes du travail. C'est un règlement de la loi sur les normes du travail. C'est comme ça qu'on détermine le taux du salaire minimum parce que c'est prévu dans un mécanisme qui est le règlement. Maintenant, ta question à savoir, est-ce que le salaire minimum ou la hausse du salaire minimum, dont on parle depuis quand même plusieurs années, à Illusion, on porte cette valeur-là depuis très longtemps. L'année dernière, on était même en campagne. Oui, il y a différents rapports qui ont été produits. C'est clair que le salaire minimum, on n'a pas la preuve à faire, il doit être augmenté. Présentement, le salaire minimum ne permet pas aux personnes de sortir de la pauvreté et de l'endettement. Et il y a effectivement eu des rapports. Celui qu'on a entendu le plus parler, c'est celui du Comité des droits économiques, sociaux et culturels de l'ONU. Et en fait, c'est la deuxième fois que dans le rapport de ce comité-là, le Québec et le Canada se font dire qu'ils doivent revoir le taux du salaire minimum. Mais il y a eu d'autres rapports aussi qui ont donné le même état de fait, que le salaire minimum était trop bas.
Ah, donc, il y en a plusieurs, finalement. Donc, c'est quelque chose qu'on peut garder à l'idée. Tout à l'heure, là, tu me parlais d'une campagne, là, mais qu'est-ce qui a été fait exactement pour augmenter le salaire minimum? C'est qui les acteurs dans tout ça, là?
Bon, la campagne, c'est une chose. La campagne, il y en a présentement encore une, mais nous, l'année dernière, avec le Front commun des personnes, des personnes non syndiquées, on a été en campagne pendant l'automne dernier pour justement demander une augmentation substantielle du salaire minimum. Pendant notre campagne, on a eu des rencontres avec le ministre du Travail, des députés. On a aussi sensibilisé la population. Il y a eu différentes actions. Et c'était le but, c'était une hausse substantielle du salaire minimum pour arriver au seuil de faible revenu établi par Statistique Canada. Bon, je ne rentrerai pas dans les détails. Notre revendication de l'année dernière se chiffrait à 10,16 $, puis on parle de mai 2007. Il y a encore une campagne en cours, puis il y a un autre taux qui est en vigueur. Et l'autre question que tu me demandais, qu'est-ce qui a été fait depuis? Bien, on sait que notre lutte, parce qu'on a quand même mené une lutte, pas juste sensibiliser les élus et la population, on a mené une lutte. Ça l'a permis lors du dépôt de la pétition, parce qu'on est allé déposer notre pétition à Québec, à l'Assemblée nationale le 13 décembre. Le ministre nous a annoncé qu'il y aurait une augmentation de 50 sous à ce moment-là.
Ça, c'est au moment où le salaire minimum est passé de 8 à 8,50 là, tu me parles.
C'est-à-dire qu'il y a eu l'annonce officielle en décembre, mais le taux du salaire minimum, la nouvelle hausse a été effective au 1er mai 2008 et on est effectivement passé de 8 à 8,5 du taux régulier du salaire minimum.
Ah, d'accord, d'accord.
Parce qu'il y a aussi c'est les employés à pourboire et d'autres secteurs qui ont eu des hausses, mais là, on parle du taux régulier, ça montait le salaire de 8 à 8,5 pour le taux régulier.
À 8,5. Donc, la revendication d'illusion emploi là-dedans, là, pour finalement cette situation-là, cette année, là, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est similaire en 2007?
C'est-à-dire que la bataille continue de se porter, puis on revendique toujours la hausse du salaire minimum au taux du faible revenu. Là, si on considère qu'on est à 8,5 $, on est encore loin du montant qui serait actuellement à 10,43 $. On sait que le Parti libéral a pris un engagement de hausser graduellement le salaire minimum s'il est réélu à un montant de 9,5 en 2010, mais on serait en deçà encore de notre revendication. Puis aussi, une autre affaire qui nous importe, c'est pas juste l'augmentation du salaire minimum. C'est bien, mais on veut s'assurer que le salaire minimum va être augmenté à chaque année, donc un mécanisme d'indexation, parce qu'il y a eu des années où on a donné des grosses augmentations, par contre, on a eu des gels. Alors, on veut s'assurer que l'effet positif de la hausse du salaire minimum va se répercuter dans le temps puis qu'il n'y aura pas de gels qui vont être appliqués.
Ah, bon, bien, dans ce cas-là, j'aimerais aussi rappeler là, aux auditeurs et auditrices qu'il y a une pétition du collectif pour bâtir un Québec sans pauvreté qui circule en ce moment. Donc, si la hausse du salaire minimum dont on vous parle en ce moment vous intéresse, ben, je vous invite à la signer. Je rappellerai aussi là, qu'en ce moment, au Québec, là, il y a 60% des jeunes qui ont un travail atypique, précaire, à temps partiel, payé au salaire minimum. Donc, la revendication au sujet là, de la hausse du salaire minimum, c'est une revendication qui pourrait améliorer les conditions de vie de beaucoup de jeunes et beaucoup de personnes. Donc, bon, ben, maintenant qu'on a terminé là, de parler de notre revendication au sujet de la hausse du salaire minimum, on va aller en musique avec les Cowboys fringants, avec la toune « Monsieur ».
Dans les coulisses, déjà quelques noms sont sur les rangs. Les médias parlent de sa probable démission. Avec lui, aucune chance de remporter l'élection. Et sa grenouille dans les couloirs du Parlement. Les dauphins s'informent du roi agonisant. Mais monsieur n'est pas amer, il sait ce qui l'attend. Il a lui-même été hypocrite si souvent. Des tapes dans le dos qui auront l'effet d'un poignard. Et le concert d'éloges de ses amis charognards. Allez qu'on en finisse, il est grand temps que ça cesse. Tout est mis en place pour la conférence de paix.
Alors, bienvenue tout le monde à la complainte du travail. Nous allons maintenant passer en revue notre deuxième revendication au sujet de la conciliation travail-famille. Manon, les auditeurs et les auditrices sont peut-être pas habitués à ce terme-là, la conciliation travail-famille, parce que on utilise beaucoup de termes différents finalement, mais pour décrire la même situation. Est-ce que tu peux nous dire, s'il te plaît, qu'est-ce que c'est la conciliation travail-famille?
En fait, la conciliation travail-famille, ça consiste à justement essayer de concilier, puis c'est très difficile d'y arriver, les responsabilités familiales et le fait de travailler. C'est pour ça qu'on parle beaucoup maintenant de conciliation travail-famille, parce que beaucoup de gens sont sur le marché du travail. Les femmes sont retournées majoritairement sur le marché du travail. Anciennement, on en parlait moins parce que les femmes étaient à la maison puis s'occupaient des enfants, mais maintenant, l'homme, la femme, les monoparentales, etc., sont sur le marché du travail et c'est pas évident d'être capable de concilier le fait d'avoir des enfants et des obligations familiales. Et je voudrais aussi dire que pour nous autres, dans le terme conciliation travail-famille, on parle de responsabilité familiale et pas juste responsabilité parentale.
Ah, d'accord. Mais là, ce que j'entends finalement, c'est que c'est concilier le travail et la famille. Donc, autant prendre soin de ses parents que des enfants. C'est ça que tu veux
dire?
C'est
ça que je veux dire, effectivement. Okay. On ne fait pas juste uniquement prendre soin d'enfants en bas âge, mais on peut aussi inclure dans ça les parents, parce qu'on voit beaucoup de personnes accompagner leurs parents à l'hôpital pour un rendez-vous ou autre, ou prendre soin d'une personne de la famille qui est malade. Hein. On le sait, il y a beaucoup d'aidants naturels et il y a beaucoup de personnes qui sont obligées de pallier et d'être là pour aider les personnes. Alors, c'est dans ce sens-là qu'on a élargi la notion à responsabilité familiale, englobant les parents et non pas seulement que les enfants en bas âge.
Puis, est-ce qu'il existe une politique sur la conciliation travail-famille dans la loi des normes du travail, par exemple?
Non.
Ça n'existe pas?
Non. Il faut préciser qu'il n'y a pas de politique. Ça avait été lors de la campagne électorale de 2003. Ça avait déjà été demandé aux différents partis qu'est-ce qu'ils pensaient d'une politique de travail-famille puis comment qu'ils allaient pousser pour ça. Et rien n'a été fait concrètement. Il n'y a pas de politique. Par contre, il est vrai que dans la loi sur les normes du travail, il existe quand même des modalités pour certains congés. Mais ce n'est pas une politique. Et c'est clair que pour nous, c'est une politique parce que la politique va venir encadrer le tout et va donner des obligations, ce qui n'est pas le cas présentement.
OK. Puis ce qui existe finalement dans la loi des normes du travail, là, qu'est-ce que c'est au juste? C'est sous quelle forme que ça prend?
Ce qui est inclus dans la loi sur les normes du travail, c'est la possibilité de prendre des congés pour responsabilité familiale. Et ces congés-là, c'est 10 congés annuellement, mais non payés. Et c'est pour ça que dans le cadre de notre revendication, ce qu'on dit, c'est qu'il est important qu'il y ait des congés de prévus, mais il faut que ces congés-là soient rémunérés parce que les bas salariés ne sont pas capables de s'absenter. Même si la loi le prévoit, dans les faits, ils ne le feront pas parce que ça devient un manque à gagner, ça devient un déséquilibre dans le budget. Alors, ce qu'on dit, c'est qu'il devrait y avoir des mécanismes ou est-ce qu'il est prévu que les gens puissent s'absenter, mais avec un revenu? Donc, il doit y avoir des congés payés pour pas que ça signifie des pertes de revenus. Okay. Ça, c'est un élément. Mais il y a d'autres éléments qui doivent se trouver dans la conciliation travail-famille.
Bien, justement, on va en reparler au retour là, de notre petite pause avec le Richard Desjardins et de Yankees.
Dormait dans son verso, les chèvres buvaient au rio. Nous allions au hasard et nous vivions encore plus fort malgré le fret et les barbares. Nous savions qu'un jour il viendrait à grands coups d'axe, à coups de taxe, nous traverser le corps de bord en bord. De la terre. Le vieux Achille dit à soi, c'est un peu trop tranquille. Ami, laissez-moi faire le guet. Allez. Dormez en paix. Par le bruit du tonnerre, ni la rumeur de la rivière, mais le galop. De milliers de chevaux en course dans l'œil du guetteur, et tout ce monde sous la toile qui dort dans la profondeur. Réveillez-vous. V'là les Yankees, v'là les Yankees, y come we y go, v'là les gringos. Ils débarquèrent dans la clairière, ils disposèrent leurs jouets de fer. L'un d'entre eux, loadé de guns, s'avance et pogne le mégaphone. Nous venons de la porte du Big Control. Son laser vibre dans le pôle. Nous avons tout, tout, tout conquis jusqu'à la glace des galaxies. Le président m'a commandé de pacifier le monde entier. Nous venons en amis, believe me. Maintenant, assez de discussions et signez-moi la reddition, car bien avant la nuit, nous regagnons la Virginie. Oh, v'là les Yankees, v'là les Yankees, y come we y go, v'là les gringos. Alors je compte jusqu'à trois et toutes vos filles pour nos soldats.
Le grain, le chien et l'uranium, l'opium et le champ de l'ancien, tout désormais nous appartient. Et pour que tout soit bien compris, je compterai deux fois. Et pour les news, la NBC, tell me, my friend, qui est le chef ici? Et qu'il se lève. Et le soleil se leva.
Hey, gringo! Escúchame, gringo! Nous avons traversé des continents, des océans sans fin, sur des radeaux tressés de rêves. Et nous voici devant vivants, fils de soleil éblouissant, la vie dans le reflet d'un glaive. America, America, ton dragon fou s'ennuie. Amène-le que je l'achève. Caligula, c'est légionnaire, ton président, c'est millionnaire, sont pendus au bout de nos lèvres. Gringo, t'auras rien de nous, de ma mémoire de titan enfant. Ça fait longtemps que je t'attends. Au gringo, va-t'en, va-t'en. Allez, gringo, que Dieu te blesse.
La nuit dormait dans son verso, les chèvres buvaient au rio. Nous allions au hasard et nous vivions encore plus fort malgré le fret et les barbares.
C'est à Félix, 95,5 FM, la radio communautaire de l'Estrie.
Bienvenue tout le monde à cette dernière partie de l'émission La Complainte du Travail. Nous allons donc terminer de parler de notre revendication sur la conciliation travail-famille. Donc, dans la loi des normes du travail, là, des règlements au sujet des congés annuels. Et Manon, qu'est-ce que c'est au juste notre revendication au sujet de ces congés-là? Là? Est-ce que tu peux un petit peu expliquer ce que c'est, puis c'est comment ça fonctionne les congés annuels, puis c'est quoi là, notre revendication finalement?
Bien, dans le même esprit que ce qu'on disait tout à l'heure, pour favoriser la conciliation travail-famille, la loi sur les normes du travail prévoit actuellement 2 à 3 semaines de vacances annuelles. Là. Ça dépend ça, du nombre d'années de service qu'on a. Et en Europe, on sait pertinemment qu'ils sont à entre 5 et 6 semaines. Alors, nous, ce qu'on dit, c'est qu'on devrait aussi, au Québec, favoriser la prise de vacances annuelles à un maximum de 5 semaines. Passer de 2 à 5 semaines, ça favoriserait pour beaucoup de personnes la possibilité, que ce soit, mettons, les vacances, les congés de relâche scolaire, ces choses-là, c'est très problématique pour les parents d'être capables de s'absenter du travail et de pouvoir être avec leurs enfants. Les congés dans le temps des fêtes aussi. Fait qu'il faut tenir compte du fait que maintenant, la réalité est différente et l'augmentation des congés annuels viendra encore une fois favoriser la possibilité de concilier le travail et la famille. Puis quand on dit, là, aujourd'hui, on a parlé de nos deux principales demandes qui sont toujours au niveau des congés. Mm-hmm. Dans le cadre d'une politique de conciliation travail-famille, s'il y avait l'adoption d'une politique, c'est bien certain qu'il pourrait y avoir d'autres mesures qu'on n'a pas parlé ce matin. Ce qu'on demande comme revendication, c'est l'adoption d'une politique de travail-famille, ce qui a toujours été reporté dans le temps. Et à l'intérieur de ça, des mécanismes. Et chez À Illusion Emploi, les mécanismes qu'on met de l'avant, c'est l'augmentation des congés annuels et les congés pour responsabilité familiale, qui en est une partie de ceux-là qui soient payés.
Merci Manon pour nous avoir éclairé au sujet de la conciliation travail-famille et ce qui pourrait être amélioré là, dans ce dossier-là. Et maintenant, nous allons parler de notre dernière revendication au sujet des agences de placement. Premièrement, Manon, est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce que c'est une agence de placement? Et historiquement, là, pourquoi est-ce que ça a été créé, finalement, nous parler de ça un peu, là?
Bon, on dit bien les agences de placement temporaires, le mot le dit. En fait, les agences de placement, on a vu apparaître ça et dans les années peut-être 70, là, je ne peux pas certifier la date de la création,
environ
mais on a vu
70.
Apparaître ça. Puis ça visait ça à combler un besoin temporaire de main-d'œuvre, soit parce qu'il y avait une personne qui était un départ, soit un congé de maladie ou des vacances, ou encore parce qu'une entreprise avait un besoin de main-d'œuvre pour une production. Là, on était dans un besoin accru de main-d'œuvre. Puis c'était toujours d'une façon ponctuelle. C'était dans le temps, c'était pas à long terme, c'était vraiment du court terme.
Maintenant, je t'arrête un petit peu. Quand tu dis ponctuel, là, juste pour être certain, tu parles de qu'on utilisait les agences de placement seulement quand on avait besoin d'une personne pour un court laps de temps, finalement.
En plein ça. C'est vraiment ce que le mot disait, agence de placement temporaire. Là où c'est devenu problématique, c'est que ces agences-là, c'est devenu du très long terme. Là, on ne parle plus d'emploi temporaire, on parle d'emploi à très long terme. Et ce que ça a apporté, c'est les agences de placement, c'est que ça l'a amené des conditions de travail qui peuvent être différentes pour les personnes qui occupent un poste, qui peuvent travailler dans une entreprise, être là pour occuper un poste à côté d'une personne qui occupe le même poste au sein de l'entreprise depuis longtemps, et ils n'auront pas, ces deux personnes-là, les mêmes conditions de travail. C'est là où ça devient problématique, c'est qu'on en fasse une utilisation qui fait en sorte que maintenant, ce n'est plus strictement pour un besoin ponctuel et que c'est venu détériorer peut-être, c'est venu détériorer les conditions des employés qui travaillent au niveau des agences.
OK. Là, en ce moment, finalement, ce que tu viens de nous décrire, c'est ce qui se passe au Québec avec les agences de placement. C'est bien ça?
Ce qui se passe au Québec et ailleurs.
Et ailleurs aussi.
Mais on sait que au Canada, le Québec, c'est la troisième province à avoir utilisé le plus le recours aux agences de placement depuis les dernières années.
Oh, d'accord. Puis au niveau des revendications, tout à l'heure, là, tu me parlais, là, Manon, que ce qu'on voulait, c'est limiter là, le recours des travailleurs et travailleuses aux agences de placement, c'est ça?
C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire que les agences de placement devraient disparaître. C'est illusoire, puis il y a un besoin pour ça. Alors, on ne dira pas que les agences doivent disparaître. Mais ce qu'on dit, notre revendication comme telle, c'est qu'il y ait des mesures pour mieux encadrer les agences de placement temporaires. Première chose, démontrer le besoin ponctuel. Une agence devrait démontrer qu'elle est là pour régler un problème ponctuel et non pas devenir un poste à temps plein dans le temps. C'est ce qu'on voit beaucoup. Il y a même des compagnies qui se sont mises sur pied. Il y a des entreprises qui ont mis leur propre agence de placement sur pied. Alors, ce n'est plus la raison d'être qui était pour être temporaire, c'est plus ça. Alors, on devrait revenir à limiter le recours pour un besoin ponctuel. Ça, c'est une de nos demandes, c'est clair. Mais il y a d'autres choses aussi, ce que je parlais tantôt des irritants. Il y en a plusieurs, ne serait-ce que les clauses. Il y a des clauses dans ces contrats-là. On parle de clauses abusives. Il faudrait revoir les clauses des contrats. C'est un autre élément important.
Est-ce que tu peux nous donner un exemple comme ça d'une clause abusive?
Ça peut être le fait de ne pas... Quelqu'un qui travaille dans une agence de placement s'engage à ne pas, à la fin de son contrat, à ne pas travailler pour un compétiteur pendant une période X. Ça veut dire qu'à la fin de son travail, la personne se retrouve sans emploi si elle n'a pas réussi à avoir un emploi permanent ailleurs, mais elle s'est engagée dans la clause à ne pas travailler pour un compétiteur pendant une période de 6 mois, 1 an et autres, ou encore pas dans un rayon de 50 km. Il y a toutes sortes de choses qu'on retrouve dans les contrats, ce qu'on considère, nous, ce qu'on appelle les clauses abusives.
Okay.
Il faut savoir que le but de ça, c'est que les personnes sans emploi aient un emploi. Il ne faut pas freiner la possibilité de travailler par la suite.
Effectivement.
Il y a aussi, bon, je l'ai dit tout à l'heure, la disparité de traitement. Quand je disais que les gens n'auront pas le même statut et les mêmes conditions, c'est ce qu'on appelle en jargon pour nous la disparité de traitement. Donc, ils n'auront pas les mêmes droits. C'est très important. La protection des droits des travailleurs. Dans un cas où on travaille pour une agence et qu'on n'a pas le même statut que les autres employés, qu'on n'a pas la même protection, eh bien, c'est important quand même pour les personnes d'être mieux protégées. Fait que c'est cette relation-là de travail qui existe doit être revue. C'est pas la disparition comme telle qu'on prône, mais c'est un encadrement pour revoir tout le processus, les mécanismes et les modalités d'application qu'il y a dans des contrats de travail et ce qui se vit quand on travaille par le biais d'une agence de placement.
Merci beaucoup, Manon. Donc, finalement, ces trois revendications-là au sujet de la hausse du salaire minimum, de la conciliation travail-famille et du retour, finalement, du changement de la fonction des agences de placement, c'est trois choses qui pourraient améliorer la condition des travailleurs et travailleuses non syndiqués et aussi réduire la précarité d'emploi. Je vous remercie, là, tout le monde, de nous avoir écoutés aujourd'hui. Je vous rappelle là, l'importance là, d'exercer là, votre droit de vote. Et si vous, maintenant que vous avez entendu nos revendications, si vous voulez les appuyer, vous pouvez aller lire les plateformes électorales et faire votre choix là, en ce sens-là. Notre prochaine émission sera au sujet de la santé et sécurité au travail et va être animée par Marie Courtemanche. Donc, je vous rappelle que cette émission vous a été offerte par Illusion Emploi, organisme de défense des droits des travailleurs et travailleuses non syndiqués, qui est situé au 187 Laurier, bureau 214, au numéro de téléphone 819-569-9993. Et notre courriel, c'est illusion@trésilionsinternet.org. Au revoir et passez une bonne semaine.
Patron te raconte que t'es adroit et gentil. Sois sûr que t'es le nigo qui fait marcher son bateau. Attends-moi, tigo.
Bienvenue à la complainte du travail.
C'est de voir l'autre se casser le cou.